Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Le jour des expiations que nous célébrons aujourd'hui est porteur d'une excellente nouvelle. Cette excellente nouvelle peut se résumer par une déclaration que l'apôtre Paul a faite dans Romains 16, 20, il y a près de 2000 ans, à savoir que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Excellente nouvelle. La fête que nous célébrons aujourd'hui est donc synonyme de l'ultime délivrance, pourrait-on dire. Sous peu, l'humanité cessera d'être sous la férule du pire dictateur et du pire criminel de tous les temps, ayant jamais existé, un archange déchu, Satan, diable. Quand Adam et Ève, il y a environ 6000 ans, dans le jardin d'Éden, décidèrent de se fier à Satan plutôt qu'à Dieu, l'humanité se plaça sous la férule de cet impitoyable tortionnaire, de ce traître dénué de toute décence et de toute bonté, de ce maître cruel sans cœur, sans père du péché et de tout ce qui est mauvais dans l'univers. D'innombrables souffrances et la mort en ont résulté. Cette période d'asservissement au mal et au péché touche à sa fin. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le jour des expiations préfigure le moment maintenant proche où Christ, qui a fait l'expiation des péchés de tous les repentants, va renverser le Dieu de ce siècle et le placer en détention, afin qu'il ne puisse plus nuire à l'humanité. Satan va être emprisonné. Ce sera une époque de grande réjouissance. Et nous sommes privilégiés de savoir ce que des milliards d'individus ignorent, que nous sommes bénis. Dès la chute de nos premiers parents, notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ ont mis en branle un plan magistral, d'après lequel tous les repentants, bien qu'ayant péché, allaient pouvoir rentrer au bercail, revenir à leur père légitime et rejoindre la famille. Nous sommes tous, vous et moi, des fils et des filles prodigues. Après avoir goûté au mal et au péché, nous avons accepté la miséricorde divine et la miséricordieuse invitation de faire amende honorable et d'accomplir notre ultime destinée. Cette fête revêt un profond symbolisme. Pour que l'humanité soit réconciliée à son Créateur et puisse trouver sa place dans la famille divine, il fallait à tout prix que Satan et ses démons soient définitivement écartés. Leur emprisonnement approche à grands pas. Satan et ses démons sont responsables de la plupart des péchés de l'humanité et de la plupart de ses souffrances. Comme vous le savez, les fêtes divines représentent toutes des phases dans le plan divin de salut de l'humanité. Sans Christ, personne ne pourrait être sauvé. Christ a dû faire l'expiation. Il en a payé de sa vie. Cette fête comporte donc deux aspects. L'expiation des péchés de tous les repentants et, deuxièmement, la mise à l'écart de l'instigateur suprême du péché, Satan. Dans l'Ancien Testament avait lieu tous les ans une cérémonie très spéciale symbolisant cette réconciliation de l'humanité à son Créateur et Père légitime. Si nous avions vécu jadis, voici ce à quoi nous aurions pu assister. « Que fait le monsieur là-bas ? » demanda le jeune Avram à son père Yossip. L'homme qui semblait très important tant les regards étaient rivés sur lui et par la dignité qui semblait se dégager naturellement de lui, était accompagné d'un jeune taureau et d'un bélier. Avram s'était rendu déjà plusieurs fois au tabernacle de l'Éternel avec Yossip. Mais ce jour-là semblait différent des autres. L'homme très digne qui se tenait avec ses animaux avait revêtu des habits plus simples que d'habitude, des vêtements de lin, une ceinture de lin, et il s'était recouvert la tête d'une ciare de lin. Iossip expliqua au jeune Avram que c'était des vêtements sacrés et qu'il les avait mis après avoir lavé son corps dans l'eau en signe de purification. Iossip expliqua que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, le plus important des prêtres ou de tous les sacrificateurs, était d'abord entré dans le lieu très saint du tabernacle où personne, sauf lui, et une seule fois par an, n'avait jamais le droit d'aller, et qu'il avait pris avec lui dans ce lieu très saint le sang du taureau qu'il avait auparavant égorgé dehors. Iossip expliqua qu'il accomplissait ainsi l'expiation pour lui-même et pour toute sa tribu, celle des Lévites. Avant de pénétrer dans le Saint des Saints, il avait aussi pris d'une main un brasier rempli de charbons ardents, provenant de l'autel des holocaustes, et de l'autre main, il avait prélevé deux poignées de parfums odiférants, qu'il avait dû mettre dans un bol. Il était ensuite entré dans le lieu saint pour disposer les charbons et le parfum sur l'autel des parfums, ce qui avait produit une épaisse fumée de très bonne odeur, qui avait même pénétré jusque dans le Saint des Saints, l'endroit très secret où personne n'allait jamais, sauf le grand prêtre, une fois par an. Il était ensuite ressorti pour prendre le sang du taureau et était entré cette fois dans le lieu très secret, le Saint des Saints, où il avait aspergé sept fois le couvercle de l'arche avec le sang, ainsi que le sol devant l'arche. Avram vit le prêtre ressortir et recevoir de l'assemblée des enfants d'Israël deux autres animaux, deux boucs, apparemment pour une cérémonie très spéciale, et un bélier pour un holocauste. Le grand prêtre était sorti pour égorger le bouc du peuple, puis il avait pris son sang et était entré une nouvelle fois dans le Saint des Saints pour y asperger une nouvelle fois l'arche, exactement comme il l'avait fait avec le sang du taureau. Le grand prêtre était ensuite ressorti du lieu très saint pour aller vers l'autel des holocaustes pour le purifier et le sanctifier, en prenant le sang du taureau et celui du bouc égorgé. Et il avait aspergé sept fois les quatre cornes de l'autel. Mais ce qui intriguait surtout Avram, c'était ces deux boucs. Le souverain sacrificateur les avait placés là, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, semblant attendre quelque chose. Et Iossip expliqua à Avram qu'il jetait le sort sur les deux animaux, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Il avait fait approcher le bouc sur lequel était tombé le sort pour l'Éternel, et il l'avait offert en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel était tombé le sort pour Azazel était, lui, encore vivant. Iossip expliqua qu'il ne serait pas sacrifié. On ne le tuerait pas. Il devait servir d'expiation pour tous les péchés du peuple, mais il serait lâché dans le désert pour Azazel. Et effectivement, comme le constata Avram, lorsque le grand prêtre eut achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fit approcher le bouc vivant et il ne l'égorgea pas. Il posa ses deux mains sur sa tête et parla longuement. Quand Avram demanda à Iossip ce qu'il disait, Iossip expliqua que le souverain sacrificateur confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils avaient péché. Ces transgressions, il les appliquait sur la tête du bouc et il allait ensuite confier à un homme spécialement choisi la tâche de le chasser dans le désert. Nous trouvons cela décrit dans Lévitique 16, versets 3 à 34. Frères et sœurs, cette ancienne cérémonie avait de quoi intriguer bien des gens. Et elle intrigue encore beaucoup de gens. Elle avait lieu lors du jour des expiations que nous observons aujourd'hui. Mais pourquoi? Il est fort douteux que les enfants d'Israël aient compris son profond symbolisme. Mais qu'en est-il de nous? Les questions de cette cérémonie dans le 16e chapitre du livre de Lévitique, nous nous reporterons aux versets 29 à 31. Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Quelques chapitres plus loin, où apparaît la liste complète de toutes les fêtes de l'Éternel devant être observées à perpétuité une fois de plus, et de nos jours encore, évidemment, nous lisons ce qui suit. Lévitique 23, chapitre 23, et le verset 27 pour débuter, Lévitique 23, verset 27. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations, aujourd'hui. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes, vos corps, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, pas de travail, aucun ouvrage. Car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Voilà pourquoi, à quel point c'était important, et c'est important aux yeux de Dieu. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. Il revient sur cette notion. C'est une loi perpétuelle, à nouveau, pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Comme je le disais en débutant mon message, Paul a évoqué le symbolisme profond de la fête que nous célébrons aujourd'hui, et il a parlé de l'excellente nouvelle que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains 16, 20, comme je le disais. Le jour des expiations non seulement symbolise l'expiation grâce à Christ des péchés de l'humanité, mais il nous rappelle également que Dieu va bientôt écraser Satan sous nos pieds. Excellente nouvelle, n'est-ce pas? Il va bientôt éliminer la cause principale du péché, c'est-à-dire Satan. Luc chapitre 14, verset 11. Luc chapitre 14, verset 11. Il y a un principe important ici, un principe spirituel important, qui est énoncé dans ce petit verset. Luc chapitre 14, verset 11. Quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est un principe spirituel. Il s'applique aux êtres humains, mais il s'applique aussi aux êtres spirituels. Pensez à Satan. Satan a cherché à s'élever. C'était une créature extraordinaire, infiniment douée. Probablement le summum de toute la création divine à l'époque, quand Dieu a créé Lucifer. C'était un être splendide, formidable, doué, doué pour des quantités de choses. Mais ça lui a monté à la tête. Satan, comme les autres êtres spirituels, les démons, ont le pouvoir de décider, comme nous, de décider quelle voie ils vont suivre. Et lui et les démons ont permis à leur esprit d'aller dans une autre direction. Ils se sont pris pour quelqu'un. Ils ont laissé l'orgueil les envahir. Ce jour des expiations a énormément à faire avec l'orgueil et la fin de l'orgueil, la suppression de l'orgueil. Alors, évidemment, quand ça s'applique aux êtres humains, mais à Satan, mais réfléchissons à nous-mêmes aujourd'hui, à notre orgueil. Quiconque s'élève sera abaissé. Nous devons être humbles, savoir garder notre place. Ce n'est pas toujours facile. Dans Proverbe 16 et le verset 5, il y a quelque chose d'un peu similaire. Il est écrit que tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Comme je le disais dans un message récent, il y a des choses que Dieu hait. Dieu éprouve des émotions très fortes. Bon, il les contrôle, ces émotions, mais il y a des choses qu'il hait. Il hait ces choses. C'en est une. Dieu hait le mal. Il a en horreur le mal. Tout ce qui est méchant, tout ce qui est de méchanceté, tout ce qui est corruption, Dieu hait ces choses. Et il fera tout pour les éliminer à jamais. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Dieu ici a une promesse, il dit, il ne restera pas impuni. Il faudra rendre des comptes, tôt ou tard. Comment le péché a-t-il fait son apparition dans l'univers? Je pense qu'il est bon de revenir rapidement sur un passage que nous connaissons tous, mais Ézéchiel 28. Ézéchiel parle ici, dans le 28e chapitre, de ce qui s'est produit, de la naissance en quelque sorte du péché, avec cet archange Lucifer. Ézéchiel 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. C'est intéressant, complainte. Complainte, c'est une complainte. Dieu est toujours triste, attristé, profondément attristé de la voix que cet être qu'il a créé un jour a pris une autre direction et est devenu un traître. A pris la direction du mal, de l'orgueil, du péché. Une complainte. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Ça prouve que cet être était magnifique. Il était parfait. Tu étais en Éden. Bon, on sait tout de suite maintenant, en lisant ce passage, qu'il ne s'agit pas d'un être humain. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Bon, il ne décrit pas Adam ici. Tu étais, mais sous-entendu avant, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onisques, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est un être créé, ce n'est pas un être éternel, c'est un être qui fut créé. Tu étais un chérubin protecteur. À nouveau, bon, on voit en lisant ce passage, il s'agit ici de la description d'un chérubin protecteur, dans ce sens qu'il était au-dessus du trône de Dieu. Dieu n'avait pas besoin d'être protégé, mais c'est une façon de décrire sa place. Aux ailes déployées, il avait ses ailes déployées. Je t'avais placé, donc Dieu l'avait placé sur, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, sur son trône. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Essayez d'imaginer le spectacle. Ça a dû être quelque chose d'extraordinaire, d'une beauté formidable, d'une beauté indescriptible. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Donc, pendant un certain temps, cet être, cet archange, a été intègre dans toutes ses voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Il y a eu un moment où Lucifer est allé dans une autre direction. Lucifer a essayé autre chose que la voie divine. Peut-être était-il sincère au départ, disait, moi, je voudrais essayer autre chose. Très dangereux, très dangereux. Il n'y a qu'une voie qui est la bonne, celle de Dieu. Mais voilà, cet être a essayé autre chose. L'iniquité a été trouvée en lui à un moment. Par la grandeur de ton commerce, bon, nous ne savons pas exactement quelle sorte de commerce au niveau spirituel il y avait, mais il y a toutes sortes d'activités dans le règne spirituel et il y avait apparemment même un certain commerce qui se faisait dans le règne spirituel. Tu as été rempli de violence. Mais il a permis à cette violence d'entrer en lui. Et tu as péché. Boum, là c'est le départ, ça c'est le moment, c'est l'origine du péché. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il s'est pris réellement, il dit, hey, je suis formidable, hein. Je suis beau, je suis doué. Yeah. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Et il y a un autre passage que nous connaissons aussi, qui se trouve dans Ésaïe, qui parle aussi de celui qui a démarré tout cela, en quelque sorte. De celui qui a péché pour la première fois, qui a guidé un certain nombre d'anges dans cette direction, qui s'est écarté de la voie de l'Éternel. Ésaïe 14, verset 12, Ésaïe 14 et le verset 12. Vous savez, personne n'aurait pu écrire cela. Aucun être humain n'aurait pu écrire cela. Ça, c'est une preuve de l'inspiration extraordinaire de la Bible. Ça nous révèle ici quelque chose qu'aucun être humain n'aurait pu savoir. Il fallait que ce soit révélé par Dieu à un être humain. Par Dieu, révélé par Dieu. Aucun être humain n'aurait pu inventer quelque chose comme ça. Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Lucifer, astre brillant. Lucie, c'est la lumière ferrée, apportée. Il était porteur de lumière à un moment donné. Mais il n'est pas resté astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il y a certaines traductions qui disent, je deviendrai le Très-Haut. Je serai le Très-Haut. L'orgueil est venu en lui. Le jour que nous célébrons aujourd'hui évoque, comme la Pâque que nous avons célébrée il y a quelques mois, le pardon de nos péchés et notre réconciliation à notre Père Céleste grâce au sacrifice parfait de Christ. Mais le jour des expiations représente en outre une autre étape du plan divin de rédemption pour l'humanité, l'élimination de la cause primordiale du péché. Avant que l'humanité ne connaisse véritablement la paix, ce que ce jour des expiations représente doit avoir lieu. Satan est l'auteur du péché. Il va être placé en détention, en prison, et ne pourra plus nuire, ni lui, ni ses cohortes, ses démons. Sans cette mise à l'écart de l'adversaire suprême, de cet instigateur principal du péché, l'humanité continuerait de retomber dans la désobéissance et dans la souffrance. Il y a donc deux leçons importantes que ce jour nous enseigne. Premièrement, Christ est mort à notre place, ayant fait l'expiation de nos péchés. Sans lui, nous n'aurions aucun espoir de ne jamais entrer dans le royaume de Dieu et d'être sauvés. Et deuxièmement, Satan est le père du péché. C'est lui qui l'a engendré, du fait de sa rébellion contre Dieu, et il va être jugé pour son énorme responsabilité dans tout le mal et dans toutes les souffrances par lesquelles le monde a été affligé. Nous n'avons pas à porter le poids, la responsabilité de beaucoup de nos péchés. Cette fête nous enseigne donc deux leçons fondamentales d'une importance capitale. Bien que nous soyons, nous autres humains, en partie responsables de nos péchés, nous avons le pouvoir de choisir, nous aussi, devant de ce fait être rachetés. Satan est en grande partie responsable de ces derniers, de tous ces péchés, en ce qu'il nous a fortement incités à désobéir à Dieu. L'influence de cet archange déchu est telle que, comme le dit l'Écriture dans Apocalypse 12 et le verset 9, toute la terre est séduite. C'est un être très puissant. Satan empêche les gens de comprendre la vérité. Cela, l'apôtre Paul l'a expliqué. Reportons-nous à 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, écrit Paul, Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et Paul a également précisé ce qui suit. Il a précisé dans Éphésiens 2, les versets 1 à 3, je ne me rapporterai pas, mais vous n'avez pas besoin de vous y reporter, faute de temps, mais Paul dit que vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, avant d'être convertis, avant que Dieu ouvre vos yeux. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Satan, qui est très puissant, est infiniment trompeur. Il est le contrefacteur suprême. Il va même jusqu'à se faire passer pour un ange de lumière. Il a séduit beaucoup de théologiens, de pasteurs ou de prêtres qui, eux, prétendent dire la vérité et venir même de Dieu, mais disent des mensonges et s'opposent à Dieu, est-on volontairement ou involontairement dans l'erreur. Il a parlé d'individus qui s'étaient glissés par les membres, je parle de Paul dans la vraie Église, qui étaient de faux docteurs. C'est la même chose encore de nos jours, il y a de faux docteurs, beaucoup de faux docteurs. Et il y en aura de plus en plus à mesure que nous approchons de la fin. Comme Paul le dit également dans 2 Corinthiens 11, dans 2 Corinthiens 11 et les versets 13 à 15, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'humanité dans son ensemble a eu et a encore pour père le diable. C'est en effet ce que Christ lui-même a déclaré. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8 et le verset 31. Est-ce que nous sommes conscients de ces choses ? Jean chapitre 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Alors il parle à un groupe qui avait cru en lui. Ok, mais croire c'est une chose, mais est-ce qu'ils sont allés plus loin? Il avait cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un choix se présente à vous. Si vous gardez ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous faites ce que je dis, en d'autres termes, là, vous êtes vraiment mes disciples. Oh, il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui se disent, ah, ils sont d'accord avec ce que la Bible dit, mais ils ne pratiquent pas. C'est juste des belles paroles, ça sonne bon, ça sonne juste, mais pour eux, ils ne les pratiquent pas. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira si vous faites ce que je vous dis. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Il y a quelque chose qui leur manquait là. Compréhension, question, niveau compréhension, il y a quelque chose qui leur échappait. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ils ne comprenaient pas ce concept, cette idée de liberté. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et verset 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a aucune vérité dans Satan. Il n'y a pas de vérité en lui. C'est rien que du mensonge. C'est rien que de la frime. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ouh, ça devait faire mal. Ouh. Mais Christ n'a pas été par quatre chemins, n'est-ce pas? Et nous savons, vous et moi, que bien que nous ayons le Saint-Esprit, Satan continue de nous influencer. Paul avertit les Corinthiens de ne pas se laisser séduire. Il leur écrivit, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » 2 Corinthiens 11:3. Les chrétiens s'efforcent de résister à Satan et de cesser de pécher. Ils sont engagés dans une lutte spirituelle contre l'adversaire suprême et contre ses démons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Nous célébrons aujourd'hui le jour des expiations parce que nous avons un nouveau Père, Dieu. Éphésiens 2:4. Notre Père, c'est Dieu. Dieu qui est riche en bonté, Éphésiens 2:4, riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, non pas par quelque chose que vous avez mérité, par la grâce. La grâce est un don divin, c'est un cadeau divin. Nous ne méritons pas le salut. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble, figurativement parlant, bien sûr, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est encore à venir, mais c'est une figure, là. Afin de montrer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Vous n'avez rien fait pour le mériter. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ah ah, on vous dira, ah là, vous voyez, c'est écrit, ce n'est point par les œuvres, alors on n'a pas besoin d'œuvres. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Le verset suivant contredit ces gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Paul précise ici sa pensée, au cas où nous n'aurions pas bien compris. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les regardions et en parlions tout simplement. Non, que nous les pratiquions. Que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, nous devons les pratiquer. Pourquoi cette cérémonie impressionnante sous l'ancienne alliance avec ces deux boucs? Et pourquoi jeûnons-nous aujourd'hui? Que fait-on-nous en somme? Le fait que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Comme nous l'avons lu dans Romains 16:20. Le fait que Christ nous a réconciliés au Père, de sorte que maintenant nous avons pour Père Dieu. Le fait que nous étions responsables de nos choix et de nos fautes et que Satan est responsable en grande partie de nos choix. Satan, à Azazel, ne peut pas mourir. Il va être chassé dans un horrible désert spirituel où il ne pourra plus nuire à personne. C'est pour cela que le sacrificateur, sous l'ancienne alliance, mettait les péchés de toute la nation sur la tête du bouc pour Azazel. Le titre de mon message aujourd'hui est « Un bouc pour Azazel ». Le jour des expiations préfigure l'époque merveilleuse où Satan ne pourra plus influencer ni séduire l'humanité. L'époque où les enfants de Dieu seront enfin libres et immensément heureux. Éternellement heureux. Un jour, les conséquences de la révolte d'un tiers des anges auront cessé de se faire sentir. À jamais. Waouh ! Que ce jour est riche, que ce jour est merveilleux. qu'il est évocateur. Et certes, nos corps gémissent un peu parce que nous n'avons pas mangé, mais ce n'est pas important, la chair. Le spirituel est beaucoup plus important. Quand nous diminuons dans la chair, nous pouvons nous élever. Comment Satan s'y prend-il pour nous séduire et nous faire chuter? Oh, il agit au niveau de nos cinq sens. Le plaisir des sens peut produire en nous une véritable addiction, dépendance, si nous ne le maîtrisons pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun mal au plaisir. Le plaisir, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Mais nous devons maîtriser ce plaisir. Je parle ici des cinq sens, pas seulement du toucher. Si dans la vie, la recherche du plaisir ou du confort devient une fin en soi, une véritable quête, nous perdons de vue notre ultime destinée. Notre esprit devient en quelque sorte anesthésié, comme drogué. Nous perdons une partie de notre capacité à raisonner rationnellement. Satan travaille donc sur nos cinq sens. Il y a des choses que nous ne sommes pas supposés voir. Il y a des choses que nous ne sommes pas supposés entendre. Il y a des choses que nous ne sommes pas supposés sentir. Il y a des choses que nous ne sommes pas supposés ressentir. Il y a des choses que nous ne sommes pas supposés goûter. Il y a des choses qui nous sont défendues pour notre bien. Vous savez, à notre époque, on vous dit, vous avez droit à tout. C'est votre droit. Les gens insistent sur leur droit. Vous n'avez pas le droit à tout. Il y a des choses qui sont bonnes pour nous, il y a des choses qui sont mauvaises pour nous. Il y a des choses qui sont défendues. Bon, il est agréable de bien se sentir, mais le confort personnel, celui de la chair, ne doit pas devenir une fin en soi. Je dis à nouveau, ce n'est pas mal, mais il ne faut pas que ça devienne un objectif, une fin en soi. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27 qu'il traitait durement son corps et le tenait assujetti de peur d'être désapprouvé. Il prenait garde de ne pas trop s'habituer au confort, qui est la satisfaction des sens dans bien des cas et qui peut créer une addiction, à nouveau une dépendance. Satan joue beaucoup avec cela dans nos vies, surtout à notre époque moderne, notamment par les films. Nous sommes très influencés par le visuel, par tout ce que nous voyons, par les belles images qui nous touchent. Satan est un expert de l'audiovisuel. Il peut, par des images touchantes et une musique émouvante, nous mener par le bout du nez, en nous plongeant dans certaines humeurs, romantiques, mélancoliques ou autres. Nous devons donc toujours être sur nos gardes. À nouveau, une question de mesure dans toutes ces choses. Il y a des belles images et de jolies mélodies, c'est vrai, il n'y a rien de mal à ça, mais quand nous sommes bouleversés, nous sommes vulnérables. Alors, il faut faire très attention dans ces cas-là. Il n'est jamais bien futé de prendre des grandes décisions quand nous sommes sous le coup de l'émotion, par exemple. Et en ces temps hédonistes, on recherche souvent le plaisir, la satisfaction, l'assouvissement des sens. On recherche la voie facile et on fuit toute contrariété, toute difficulté, si minime soit-elle. Cela ne forme pas le caractère. Le royaume de Dieu ne sera pas une orgie sensuelle, si je puis m'exprimer ainsi. Le royaume de Dieu nous accordera un assouvissement spirituel et mental ultime et éternel, mais ça sera un autre niveau. Mais tant que nous sommes physiques, charnels, nous dépendons de la matière. Notre destinée est de dépendre du spirituel, au niveau divin, ce qui nous procurera des plaisirs ineffables. Des plaisirs ineffables, mais purs et spirituels, divins, auxquels Paul a brièvement fait allusion quand il a relaté son expérience dans 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, quand il fut ravi au troisième ciel, quand il fut directement enseigné par Christ en Arabie. Quand nous aurons un corps spirituel, quand nous serons esprits dans le royaume, nous serons dans une autre réalité, la vraie, celle de Dieu. avec un corps immortel, en parfaite santé, rempli d'énergie, muni d'énormes pouvoirs. Mais avant de revêtir l'incorruptibilité dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens 15, nous devons édifier en nous un caractère saint et juste, comme celui de Dieu. Ce à quoi Satan s'oppose de toutes ses forces. Satan ne cherche pas à avoir un caractère saint. Satan est un esprit, mais dites-vous bien qu'il n'a jamais eu le Saint-Esprit. Il n'a apparemment jamais eu le Saint-Esprit. C'était un esprit, mais il n'a jamais appréhendé les pensées divines. Il est allé dans une autre direction, il a cherché autre chose, quelque chose de différent. Satan s'oppose de toutes ses forces au caractère saint de Dieu, à ses valeurs, à tout ce que Dieu représente. Le jour des expiations a fort à faire avec l'ultime débâcle de Lucifer et de ses cohortes, de l'ex-Lucifer et de ses cohortes, de Satan, de l'adversaire. Le dirigeant actuel de notre univers physique, le Dieu de ce monde, Satan le diable, est responsable de la perversité, de sa perversité à séduire l'humanité, à la pousser à pécher. Le bouc pour Azazel qui était chassé dans le désert et qui portait sur lui les péchés de toute l'humanité symbolisait le fait que tous les péchés vont être mis sur le dos de l'être spirituel, puissant, qui en est responsable. Satan va être, à juste titre, déclaré responsable de ses actions délibérées par lesquelles il a poussé l'humanité à pécher pendant des milliers d'années. Le symbolisme du bouc vivant évoque le sort de Satan et des démons qui seront chassés lorsque Christ viendra prendre possession de son royaume. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, est-il écrit dans l'Apocalypse. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après ça, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, et nous expliquerons cela lors du dernier grand jour. Mais c'est un autre aspect sur lequel je n'ai pas le temps de m'éterniser maintenant, ou même de développer maintenant. Mais de nos jours, en ce 21e siècle, nous célébrons ce jour en humiliant nos âmes, en nous affligeant, en nous assemblant. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Lévitique 23, verset 27, Lévitique 23, 27, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Des sacrifices qui, à notre époque, sous la Nouvelle Alliance, sont plus des sacrifices spirituels que des sacrifices d'animaux. Ces sacrifices d'animaux étaient des prototypes, des préfigurations, en quelque sorte, de ce qui allait se passer sous la Nouvelle Alliance. Christ étant le sacrifice suprême que préfiguraient tous les autres sacrifices sous l'Ancienne Alliance, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices, mais nous devons toujours humilier nos âmes et nous rendre dans la mesure du possible à une sainte convocation. Je sais que ce n'est pas possible pour tous, quelquefois nous avons des frères qui sont très isolés. Le profond symbolisme du jour des expiations est toujours très actuel et n'a pas encore été accompli. C'est prophétique, c'est pour l'avenir. Alors, ceux qui vous disent « Oh, c'était l'Ancien Testament, ça », ce sont des gens qui ne comprennent rien au symbolisme de ces fêtes. Dans le Nouveau Testament, Luc, qui écrivit le livre des Actes, fait allusion au jour des expiations dans Actes 27, 9. Il est question du Nouveau Testament cette fois-ci. Il y fait allusion dans Actes 27, 9, où 30 ans après la crucifixion, il parle du jeûne. Et tout le monde savait à l'époque que c'était le jeûne, le jour des expiations. Il parle du jeûne comme d'un fait acquis. Si ça avait été annulé, il n'en aurait pas parlé. Le mot traduit en français par « humilierai » dans Lévitique 23-27, « vous humilierez vos âmes » est « ana », A-N-A-H. Mot qui signifie « être affligé ». Prosterner, humilier, être humble. On retrouve ce même mot dans Psaume 35, dans Ésaïe 58 et dans Esdras 8, 21. Je vais lire ces passages rapidement. Psaume 35, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Voilà, il humiliait son âme par le jeûne. Voilà ce que David faisait. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Dans Ésaïe 58, il est écrit, Ésaïe 58, 3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard, si tu n'y as point d'égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est ça le problème, c'est ça votre problème. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel, un jour où l'homme humilie son âme, etc. Courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jour de jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ce n'est pas pour la frime que je te demande de jeûner. Je regarde ton cœur, c'est ça que l'Éternel dit ici. Et puis Esdras, Esdras, rappelez-vous, là, près du fleuve d'Ahava, Esdras 8, 21, « Je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. » Et Esther aussi indique ce que c'est que jeûner. Esther 4:16, vous connaissez l'histoire, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Donc, elle explique ici, pour nous, qu'est-ce que c'est que de jeûner, de ne pas manger et ne pas boire. Pourquoi Dieu nous ordonne-t-il de jeûner pendant ces 24 heures? Quand nous jeûnons, nous exprimons notre désir de nous rapprocher humblement de notre Dieu, de notre Père Céleste. Le jour des expiations préfigure l'époque de réconciliation future, lors de laquelle Satan sera banni du monde. Après que la terre aura été dévastée par les terribles événements devant se produire jusque-là, lorsque l'humanité repentante sera enfin réconciliée à son Créateur. Jeûner nous rappelle le caractère temporaire de notre existence. Sans nourriture et sans eau, nous ne tarderions pas à mourir. Jeûner nous aide à nous rendre compte à quel point nous avons besoin de Dieu. Et quand nous nous sentons faibles, nous avons généralement moins tendance à être agressifs et charnels. Le jeûne diminue l'influence de Satan sur les individus. C'est un outil puissant pour vaincre nos faiblesses en nous rapprochant de Dieu. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes forts spirituellement. Jacques chapitre 4, verset 6, Jacques chapitre 4 et le verset 6. Et nous débuterons avec la deuxième partie du verset, Jacques 4, 6, deuxième partie du verset. L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons des problèmes avec l'orgueil, Dieu nous résistera. Dieu n'aime pas les orgueilleux, rappelez-vous de Satan. Dieu a horreur de l'orgueil, de ceux qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous dépendons de Dieu pour tout. À partir de l'air que nous respirons, s'il ne nous donnait pas cet air, nous ne pourrions pas vivre. Et tout le reste, j'en passe, n'est-ce pas? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et ça, il est facile de se dire, je suis humain, vous savez. Je suis humain, Dieu comprendra. Dieu n'accepte pas cette idée, il dit résistez. Faites des efforts. Je sais que c'est pas facile, mais résistez. Résistez au diable. Et si vous lui résistez, Dieu a promis une chose, il fuira loin de vous. Il saura à un moment donné qu'il perd son temps. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Quand vous vous approchez de Dieu, Satan, il s'en va. Il y a une chose qu'il a horreur de voir, c'est le Saint-Esprit. C'est tout ce qui se rapporte à Dieu. Alors quand Satan voit que vous vous rapprochez de Dieu, il s'en va dans une autre direction. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous, Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Humiliez-vous, il vous élèvera. Revenons quelques instants sur la première leçon du jour des expiations. Le bouc qui était immolé représentait le sacrifice de Christ à notre place. Christ a payé pour nous l'amende encourue par nos péchés, c'est-à-dire la mort. Il est à noter que Christ n'est pas demeuré mort. Il est ressuscité. Et il joue pour nous un rôle énorme. Rappelez-vous de la cérémonie qui est décrite dans Lévitique 16. Au verset 15 à 19, il n'avait lieu qu'une fois par an, lors du jour des expiations. Le sacrificateur prenait avec lui, dans le Saint des Saints, la partie la plus sainte du tabernacle, représentant le trône de Dieu, le propitiatoire, le sang du bouc sacrifié. Le sacrificateur préfigurait la fonction de Christ pour les chrétiens repentants. Vous avez remarqué que j'ai utilisé le mot « repentant » plusieurs fois, parce que chaque être humain qui veut être dans le royaume devra se repentir. Ceux qui se repentent auront la possibilité d'entrer dans le royaume. Ceux qui ne se repentent pas, Christ n'est pas mort à leur place parce qu'ils ne se repentent pas. Ils n'ont pas envie de changer. Étant monté au trône de Dieu pour présenter le sang de son sacrifice, Christ intercède pour nous à présent auprès du Père comme il le fait depuis sa résurrection, en tant que notre souverain sacrificateur. Et que c'est merveilleux. Vous savez, souvent j'imagine, quand nous faisons quelque chose, mais nous faisons des efforts, il y a Satan qui dit, ah, tu l'as vu, non mais, tu veux quelqu'un comme ça dans ton royaume? Et il y a Christ qui est à côté du Père et qui dit, il a rien compris. Ton fils, ton enfant là, il essaye, il fait des efforts, il se repent, il est humble. Alors j'imagine le Père qui dit à Satan, fiche le camp, va voir ailleurs si j'y suis. J'imagine, je suis certain qu'il y a des moments où c'est le cas. Parce que Satan ne comprend pas la mentalité de Dieu. Il ne comprend pas comment Dieu réagit et il ne nous comprend pas non plus. Pensez-y. Satan ne comprend pas les chrétiens. Il essaye de nous influencer toutes sortes de façons, mais il ne nous comprend pas. C'est parce que c'est que la bonté, l'amour, la fidélité, tout ça, il ne sait pas ce que c'est. Alors il essaie de s'attaquer, tant qu'il peut, mais... L'Épître aux Hébreux nous explique que nous avons Christ qui est à la droite du Père et qui souvent prend notre défense. Père, pardonne-lui. Il essaye, il a bon cœur. Il va y arriver. On lui donne encore du temps, on lui donne un peu plus de notre Saint-Esprit, il va y arriver. Satan, lui, toujours à l'attaque. Oh, oui, tu parles. Hein. Christ est auprès du Père, il prend notre défense. Et ça, c'est merveilleux. J'ai besoin de sa défense. En avez-vous besoin? Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Hébreux 9, 11. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Grâce au sacrifice de Christ, nous avons un accès direct auprès du propitiatoire céleste, au trône même de notre Père aimant et miséricordieux. Et cet accès a dramatiquement été confirmé lorsque le voile du temple à Jérusalem, à la mort de Christ, s'est déchiré en deux, de haut en bas. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent, Matthieu 27, 51. Ce voile, ce rideau, très épais, très solide, se déchira miraculeusement pour montrer que le sang de Christ avait été accepté comme rançon pour nos péchés, et que dorénavant réconciliés au Père, les vrais chrétiens, ceux qui se repentent, ont maintenant direct accès au trône céleste où siège le Père. Vous et moi, nous avons ce privilège extraordinaire de pouvoir dialoguer avec notre Père céleste et lui parler. Nous avons accès au trône de Dieu. C'est merveilleux. Du fait de ce sacrifice inestimable, Christ est notre souverain sacrificateur. Hébreux 4:16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du propitiatoire, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ne soyons pas timides, allons vers Dieu, nous avons besoin de lui. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, Hébreux 9:24, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il apparaît pour nous, il comparaît pour nous devant la face du Père. Oh, que c'est encourageant! Christ est notre ami. Il nous aime. Il est notre grand frère. Oh, il nous arrive encore de pécher, même si c'est de moins en moins souvent grâce à l'Esprit qui vit en nous, au Saint-Esprit qui agit en nous. Et quand nous péchons, il importe que nous demeurions sous la grâce et confessions nos fautes à Dieu, incidemment, pas à un homme, mais à Dieu. Nous confessons nos péchés à Dieu, de manière à être pardonnés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous nous croyons parfaits, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu, notre Père, sait que nous sommes chers, et tant que nous sommes chers, nous allons pécher. Mais nous péchons de moins en moins, et ce n'est pas une habitude, ce n'est pas quelque chose que nous aimons faire. Souvent, c'est par faiblesse, n'est-ce pas? Le point central du jour des expiations est que tout péché doit être expié. Le péché est incompatible avec le royaume de Dieu. Nous sommes responsables de nos péchés, et Satan l'est des siens. Dieu n'acceptera jamais dans son royaume quelqu'un qui n'est pas purifié. Cette fête merveilleuse que nous célébrons aujourd'hui met donc l'accent sur l'ultime sacrifice de Christ pour que nous puissions un jour entrer dans le royaume de Dieu et sur la débâcle prochaine de Satan qui va être bientôt mis hors d'état de nuire. C'est avec une grande sagesse que Dieu décida en Éden, quand Adam et Ève s'arrogèrent la prérogative de définir le bien et le mal eux-mêmes et d'aller leur propre chemin, d'introduire la peine de mort pour toute désobéissance. Dieu a été personnellement témoin de la corruption et de la destruction causées par les anges qui se sont rebellés contre sa voix. Et il ne veut plus que cela se reproduise. Chaque être humain ayant vécu au cours des 6000 ans de la semaine millénaire d'expérience humaine du plan de Dieu devra un jour choisir entre la vie éternelle dans la gloire et en pleine harmonie avec Dieu ou la destruction définitive. Il n'y a pas d'autre choix. Ou bien le choix d'être avec Dieu ou bien celui d'être détruit définitivement. Christ est mort pour nous. Nous avons été rachetés. Satan va être mis hors d'état de nuire. Il va totalement disparaître de la vie des gens. L'humanité sera bientôt réconciliée à son Père céleste. Il est difficile d'imaginer une situation plus merveilleuse. Il est difficile d'imaginer une nouvelle plus encourageante. Les jours de Satan sont comptés. Il a beau redoubler d'efforts, il a déjà perdu la bataille. Christ s'est déjà qualifié pour le remplacer comme roi, ou on pourrait même dire comme souverain ou empereur même de l'univers. Réjouissons-nous ensemble du merveilleux symbolisme de ce jour. N'oublions pas que pour ceux qui sont spirituels, le jour des expiations est une excellente nouvelle. Une nouvelle chargée d'espoir et de l'amour divin. Et il revêt un profond symbolisme spirituel. Réjouissons-nous. Je vous souhaite à tous une excellente fête.